Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, la dernière de la saison pour vous. Aujourd'hui, évidemment, on parle de cette histoire d'abattage de poulets, d'euthanasie, si on peut dire, par asphyxie, d'un million de poulets par semaine. Ça fait beaucoup réagir. En fin d'émission, là, on va voir un peu l'histoire des animaux au Canada, la maltraitance. Est-ce qu'on peut faire ça? On va se comparer à d'autres pays. Il y a Éric Jacob de Broise, spécialiste en histoire du droit, qui vient nous en parler. On va continuer la conversation avec Maître Jean-Paul Boily, qui nous explique la grève chez Exceldor avec l'abattage de poulets. Qu'en est-il? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe? Il nous en parle. Avant tout ça, en début d'émission, on parle de hockey. C'est la fièvre des séries. On est derrière le Canadien. Mais ça nous rappelle qu'au hockey, il y a des règles. Et surtout dans le hockey mineur, où est-ce qu'il y a Enrico Ciccone qui veut des projets de loi pour contre la bagarre dans le hockey. Et aussi un projet de loi qu'on certains individus devraient déclarer leurs antécédents pour les commotions cérébrales. Qu'en est-il? Il y a Maître Sophie Mongeon qui nous en parle. Et Frédéric Bérard est là pour nous parler de la réforme des langues officielles, des mesures à retenir. On veut être plus ferme, protéger le français. Il nous en parle. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez.
Avocat à la barre.
Suivez-vous la série du Canadien contre Las Vegas en ce moment? C'est palpitant, je veux dire, le sport, le hockey, on sait, c'est un sport qui est rapide, de contact aussi dans la Ligue nationale. On a vu ce qui s'est passé avec Jake Evans. On a eu chaud, on a eu peur, on en a parlé. Heureusement, il va bien. On a vu ce qui s'est passé aussi avec Tabarez, qui avait avec le joueur des Canadiens, Perry, là, qui l'a accroché. Et on avait craint le pire également. Mais on sait que dans le hockey, on en a parlé déjà, la glace n'est pas un lieu de non-droit. Et il y a des niveaux. Évidemment, un sport professionnel, on sait que c'est avec contact. Et ces gens-là qui sont là le savent, hein, ils acceptent ce risque-là, puis c'est un sport de contact. Par contre, et ce contact-là, on permet aussi ces bagarres. Hein? Ça fait partie du spectacle. Il y en a qui questionnent ça. Est-ce que au hockey, c'est normal pour un sport où est-ce qu'on veut compter des buts partie adverse? On n'est pas à la boxe, là. Donc, on se demande si les bagarres ont toujours leur place. Et suite à tous ces événements-là, bien, on sait là, qu'il y a un projet de loi. C'est Enrico Ciccone, que vous connaissez tous là, dans le sport, qui demande là, ce qu'on arrête les bagarres, qu'il y ait des modifications à la loi qu'on appelle sur la sécurité dans le sport. Cette loi-là qui touche vraiment plus les sports mineurs, ouais, parce qu'on sait même qu'il y a des sports qui sont sans contact, avec contact. Mais les bagarres, théoriquement, c'est pas légal. Là. Et par contre, ça semble mal encadré. Il y a le projet de loi, il y a des projets de loi qui pourraient empêcher les bagarres. Et aussi, un qui fait jaser, si on peut dire, parce que ça peut atteindre certains droits, un passeport, là, un registre qui tiendrait compte des commotions cérébrales. On l'a vu avec le football, on l'a vu, les commotions cérébrales ont été une sorte de fléau. Donc, est-ce qu'on doit en tenir compte? Mais est-ce que ça contrevient à certains droits? face, on doit dévoiler notre condition médicale avant de pratiquer un sport. On en parle avec Maître Sophie Mongeon qui est avec nous pour en discuter. Bonjour.
Bonjour, Maître Bernier. Vous allez bien?
Ça va très bien. Merci d'être avec nous en cette période de sport, de fébrilité du hockey. Mais quand on parle hockey, il y a toujours, on peut se poser des questions juridiques. Et dans ce cas-ci, qu'en est-il? Les bagarres, est-ce qu'on va les voir disparaître ou pas?
Bien, écoutez, dans le fond, Enrico Ciccone, lui, il a déposé deux projets de loi en deux temps. Il y a eu un premier projet de loi qui a été déposé en octobre 2020 concernant les batailles, mais il y en avait fait un avant qui date de d'avril 2019, qui était surtout sur le fait d'instaurer un registre de passe-sport. Vous voyez le jeu de mots,
pas comme
le passe-santé, là, donc c'est la façon qui est indiquée, pour colliger les données sur les gens de moins de 18 ans qui auraient des commotions cérébrales.
OK, de 18 ans. Et d'ailleurs, précision, est-ce que pour les bagarres, on ne vise pas des joueurs de la Ligue nationale? Là? Ça appartient à la Ligue nationale. Cette loi-là, c'est pour régir des sports mineurs, là.
Oui, exactement. C'est vraiment des sports mineurs, des sports amateurs, etc. Je pense que ça vise beaucoup le midget 2A, ce genre de ligue-là.
Ben oui, parce que c'est là qu'on a... Parce que dans la Ligue nationale, je pense que la part des gens disent, bon, ils feront bien ce qu'ils veulent, là. C'est des professionnels, c'est tout un sport qui est régi. Mais je pense ce qui choque des bagarres, c'est de voir des jeunes qu'on veut que le sport leur apprenne des choses de la vie puis qu'on leur permette de se battre, là.
Ben c'est ça. Puis en plus, tu sais, ça arrive pas juste aux autres. Là. Quand vous regardez le reportage là, que Enrico Ciccone a mis sur pied, il a fait une capsule YouTube qui est disponible. Elle dure à peu près 2 minutes et demie. On voit Dean Bergeron, qui est un joueur de hockey, qui a été il est en chaise roulante parce que lui a eu un accident quand il avait 18 ans, quand il jouait au hockey. Il a eu une mise en échec assez sévère qui l'a rendu handicapé pour le reste de ses jours.
Ouais.
Donc, dans la petite vidéo YouTube, si vous le regardez, vous voyez un peu son histoire et c'est quoi le fondement là, de M. Ciccone là, sur les deux différents projets de loi qu'il veut faire. Là.
Mm-hmm. Et parce que lui, ce qu'il prétend, c'est que les bagarres dans le hockey mineur, c'est vraiment dommageable. Là.
Ben exact. Ça, c'est un des projets de loi avec lequel je suis totalement d'accord. Ça, c'est bien sûr. Je trouve que ça pue sa place avec les connaissances qu'on a maintenant aujourd'hui des commotions cérébrales.
Mm-hmm.
Donc, effectivement, là, même en novembre 2018, il y avait eu une entente à l'amiable entre la Ligue nationale et des anciens joueurs à environ 140 là, en ce qui concerne les traumatismes crâniens et les commotions cérébrales.
Ouais.
Mais là, projet de loi qui m'intéresse, Maître Bernier, puis que je veux partager avec vous, c'est donc effectivement celui qui est par rapport au passe-sport. Donc, ça serait tout un registre où on prendrait note de tous les incidents qui ont lieu et on en ferait l'étude, etc. Et il y a un article dans ce projet de loi-là qui est assez particulier, ou en tout cas, qui est très bien aussi, qui dit que ces recherches-là, puis ces données-là et ces études-là ne doivent pas être données à qui que ce soit sous peine d'avoir des amendes de 500 à 1000 $.
Okay.
Mais vous, Maître Bernier, vous êtes avocat comme moi,
mm-hmm.
vous savez qu'une fois qu'il y a un registre ou des antécédents qui sont écrits, c'est difficile après ça de les laisser, de s'en débarrasser de cette étiquette-là. Fait que moi, mon inquiétude en tant qu'avocate qui aide les gens qui ont des problèmes médico-légaux, la question c'est si toi, ton jeune, a fait partie de ce registre-là, est-ce que ça peut être dommageable pour lui dans sa vie financière plus tard, là, sa vie d'assurance?
Bien, c'est toujours le problème. On ne sait pas qui va y avoir accès. On dit toujours, vous le dites bien, là, que personne n'aura accès, mais malheureusement, des fois, des années plus tard, on se rend compte que ça a servi. C'est problématique. Mais seulement pour bien comprendre, de déclarer ces conditions comme ça servent à la sécurité du joueur. Là, c'est ce que je comprends. Là. C'est pour qu'est-ce que ça peut faire pour son jeu? Là?
Bien, c'est pas vraiment pour la sécurité du joueur. Moi, je pense que le projet de loi sur les batailles, ça, c'est pour la sécurité du joueur. Ça,
ouais.
C'est plus pour des études puis de la recherche, pour colliger les informations, pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées dans plusieurs années. Là. Donc, l'objectif est bon, mais c'est toujours les registres qui me dérangent, là, qui laissent des traces.
Okay.
Parce que quand on veut un emploi ou on veut appliquer pour une hypothèque, etc., il y a toujours des formulaires. à remplir médical. Là. Donc, est-ce qu'on, si un jeune se retrouve sur ce registre-là, a-t-il une obligation de dire, ben moi, pendant que j'étais jeune dans le sport, j'ai fait partie, on m'a déclaré une commotion cérébrale, puis je fais partie d'un registre, ou parce que c'est privé, il n'est pas obligé d'en parler.
Oui, je pense que ça va accrocher. Là. Moi, je croyais que c'était pour prévenir, tu sais, être au courant que quelqu'un qui en a déjà fait, de pouvoir, le soigner mieux, pas le faire jouer parce qu'on a vu que les commotions, c'est la répétition, la gravité, bon, peut empirer. On a vu des cas sévères. Pour ceux qui ont écouté le film Concussion, commotion, oui. Là, dans toute la NFL, là, ça a pris des années avant qu'ils se rendent compte qu'il y a des joueurs qui ont perdu la tête à cause de trop de commotions cérébrales. Donc, c'est ça. Je pensais que c'était pour avoir l'information sur le joueur, mais... Vous dites, là, c'est vraiment, ça sert à la recherche. Je pense que ça passera jamais si le joueur accepte pas volontairement de se porter, de donner des infos pour la recherche. Là. Je pense que ça va être optionnel. Là.
Bien, la collecte de données, là, si je lis correctement, c'est pour trouver les indices pour dire qui a été victime d'une commotion cérébrale, les circonstances entourant, les signes, les constatations, les résultats, etc. Et en plus, un petit point, c'est que cette collecte peut s'effectuer malgré l'absence de consentement de l'autorité parentale ou du tuteur. Donc, un jeune pourrait ne même pas savoir que cette partie qui fait partie de ce registre-là. Là. Fait qu'écoutez, c'est rien qu'un projet de loi.
On sait déjà où ça va accrocher. Là.
Ben, c'est ça. T'sais, moi, je veux dire, en tant que procureur, j'ai rien contre la vertu, sauf que je pense aux droits individuels à long terme.
Oui. Ah non, c'est certain que c'est problématique, cette portion-là. On comprend la volonté pour lutter contre ça, mais c'est sûr que ça affecte les droits personnels. Là. Parce que dans le sport, vous me parliez même au football, là, le soccer là, qu'on appelle au Québec, il y a eu des poursuites de ce genre-là là, assez grosses, là.
Bien, un peu sur les antécédents, fait que ça nous amène un peu un deuxième volet de notre capsule, c'est-à-dire, tu sais, dans le fond, une fois qu'on fait partie d'un registre où on a un diagnostic clair, est-ce qu'on est vraiment obligé de le déclarer? Les règles du sport sont pendant un échange, à peu près dans tous les sports, si un club acheteur prend un athlète, il va le faire évaluer. D'accord? Okay. Donc, ça va comme ça. Sauf que au niveau du football européen, il vient d'avoir un jugement assez particulier qui vient de changer totalement la donne. Je vous explique grosso modo. Mm-hmm. J'ai deux clubs, donc un club vendeur et un club acheteur. Le club acheteur doit payer 3 versements de 200 000 euros pour avoir cet athlète-là.
OK.
Et le dernier 200 000 euros, ils n'ont pas voulu le payer parce qu'ils ont découvert que le joueur avait un cancer. Et là, le club acheteur dit au club vendeur, ben excuse-moi, là, tu avais une clause dans ton contrat qui t'était obligé de me divulguer tout ce que tu pensais qu'il avait pu avoir.
Ah,
et
ouais.
Et le club vendeur a dit oui, mais nous autres, on ne le savait pas.
Comme un vice caché là, sur un joueur, c'est quelque chose.
Exactement ça. Donc, non seulement à ce moment-là, le club vendeur a poursuivi le club acheteur pour le 200 000 euros en disant, écoute, non, nous autres, on vous a tout dévoilé, etc. De toute façon, c'est à toi de le faire évaluer. Mm-hmm. Non seulement le club vendeur a perdu, mais ils ont été obligés en plus de payer les frais au club acheteur pour leur mauvaise foi.
Ah,
donc,
ouais.
Ça, c'est un nouveau jugement. Là, je vous l'explique grosso modo. C'est sûr qu'il y a des petites nuances.
Ben oui, mais au final, ça dit que c'est pas correct là, de tenir compte de tout le bagage médical.
Bien, au contraire, le club vendeur, c'est comme s'il y avait maintenant une obligation de dévoiler encore plus les conditions de l'athlète, ce qui n'était pas tout à fait clair avant. C'est exactement comme une maison. Dans le fond, je te vends une maison, j'ai une obligation de dévoiler.
OK, donc, c'est ça. Si le joueur cache à son équipe quelque chose, ça peut se retourner contre l'équipe. Ils doivent vraiment tout dénoncer. Ah, c'est quand même c'est spécial quand on pense d'humains, de gens, où est-ce qu'on tient compte de leurs conditions, mais on s'entend, c'est à un autre niveau, c'est les contrats, il y a une valeur sur la la capacité, la qualité de joueur. Très intéressant, Maître Mongeon. Désolé, c'est tout le temps qu'on avait, mais ça nous éclaire bien dans ce domaine-là où on s'en va. Et merci beaucoup, et merci pour la saison. On se reparle la prochaine saison.
Exactement. Bon été.
Merci, bon été. Bye-bye.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Une réforme sur le français en temps, à temps pour les élections. Bon, les élections fédérales, est-ce qu'il y en aura? Mais quand même, le gouvernement fédéral veut moderniser la loi sur les langues officielles. Et bon, dans le gouvernement fédéral qui ont déposé cette semaine, c'est une réforme attendue sur la loi sur les langues officielles. C'est quelques mois après avoir dévoilé un livre blanc de propositions censées favoriser l'égalité réelle entre le français et l'anglais d'un bout à l'autre du pays. On sait, bon, que comme point, là, français, langue officielle unique, bon, au Québec, plus d'immigrants francophones, des juges bilingues, un chien de garde avec plus de mordants pour protéger le français et travailler en français. Il y a un comité aussi qui a été établi. On en parle avec un docteur en droit que vous connaissez tous, Maître Frédéric Bérard, qui est avec nous, constitutionnaliste aussi, il ne faut pas oublier. Et je crois qu'il a participé au comité sur cette réforme. Bonjour Frédéric.
Salut.
Donc, est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on veut réformer la loi là?
Ben ouais, ben en fait c'est ça, c'est le projet de loi qui est déposé par la ministre Joly, puis tu as eu raison de dire, j'insiste en toute transparence, je suis en conflit d'intérêt là-dessus parce que j'ai été nommé, j'étais un des 6 experts en droit constitutionnel qui a passé l'hiver là-dessus. Donc,
bon, pas un gros conflit. Tu connais le dossier. C'est ce qui nous importe.
Oui, ben c'est ça. Mais, je veux dire, je laisserai les auditeurs juger si je suis trop complaisant, mais contrairement à d'autres experts, moi, j'aime mieux dire quand j'ai travaillé sur quelque chose comme ça, quand on me demande si c'est une bonne idée, puis je dis oui, ben évidemment, c'est ça a l'air moins bête que le contraire.
C'est une bonne affaire. Ceux qui trouvent que t'es trop teinté, là, ils vont changer de poste.
comme je te disais, hors d'onde, il n'y a pas meilleur désinfectant que le soleil.
Effectivement. Alors, la clarté, c'est toujours bon. Mais oui, quand même, même si tu peux être teinté dans tout ça, là, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que on parle de langue officielle? C'était pas déjà réglé, ça, les langues officielles?
Ben, il y a plusieurs éléments. Hein? La loi sur les langues officielles, telle qu'on la connaît, toi puis moi, ça a été adopté il y a de ça plus d'une cinquantaine d'années par le gouvernement, par le Parlement, sous l'impulsion du gouvernement de Pierre Trudeau à l'époque. Donc, évidemment, il s'agissait de la moderniser. Ça avait été assez peu fait par Mulroney à l'époque, des Pécadilles. Là, ce qu'a décidé de faire la ministre Joly, c'est d'attaquer le problème de front. Et quand on parle de problème, tu l'as soulevé un petit peu tout à l'heure, c'est en parlant d'égalité réelle du français et de l'anglais. Pourquoi l'égalité réelle? Bien, c'est parce qu'en droit, c'est un concept qui est important, ça, l'égalité réelle. Ça s'oppose au concept d'égalité formelle. L'égalité formelle, c'est tu as les mêmes droits, mais l'égalité réelle, c'est non seulement tu as les mêmes droits, mais en plus, tu as les moyens, tu as les ressources pour les faire valoir, pour arriver à un certain équilibre. Donc, c'est un petit peu ça qui était l'idée derrière ça. Parmi les idées, il y en a une qui est excellente, c'est celle de forcer des nominations de juges de la Cour suprême qui sont bilingues. On l'a vu aujourd'hui au moment où on tourne cette émission, ton émission, toi et moi, le prochain juge de la Cour suprême a été choisi. Il sera bilingue et si ce projet de loi-là est adopté, ça deviendra une obligation par la suite. Moi, je pense que c'est bien. Mm-hmm. Il y a d'autres effets, tu l'as dit aussi. Le commissaire aux langues officielles aura beaucoup plus de...
Mais les juges en ce moment, à Cour suprême, pour nos auditeurs, il y en a qui parlent seulement anglais, là.
Exact. Je te dirais que... tu sais, il y a 9 juges à la Cour suprême, il y en a 3 là-dessus qui doivent absolument venir du Québec. Donc, les 3 du Québec, comme d'habitude, sont bilingues. Les 6 autres, cela dit, il y en a plusieurs qui le sont. Il y en a plusieurs qui parlent de très bon français, mais ce n'est pas une obligation.
Okay. Mais qu'est-ce que ça change qu'ils soient bilingues?
Bien, ça change beaucoup de choses, en fait, hein, parce que quand tu es obligé de traduire et de faire traduire tes propos, de traduire les propos, d'un, par exemple, juste d'un accusé. Ça a l'air con, là, mais évidemment, en cause suprême, ils n'entendent pas, des accusés comme tels, mais ils entendent des plaidoiries de gens qui sont nécessairement, comment je dirais, mouillés dans un dossier X ou Y, et n'ont jamais le même niveau de compréhension. Okay. Qu'on le veuille ou pas, quand même que le traducteur est excellent, et ça, c'est démontré par des linguistes, par des sociolinguistes, il y aura toujours une espèce de décalage. Évidemment, on souhaiterait qu'au Canada, tous les juges soient éventuellement bilingues, comme la plupart des juges le sont au Québec. Ça permet d'avoir un procès qui est beaucoup plus juste et équitable, essentiellement.
Mm-hmm. Ah, très intéressant. OK, je comprends. Allons-y sur l'autre point.
Ben, pour le reste, le commissaire va avoir plus de pouvoir d'ordonnance. Ça, c'est important parce que souvent, on disait qu'il y avait un peu un rôle, un peu, comment je te dirais, de chien de garde. Mais tu sais, un chien de garde qui n'a pas vraiment de mordant, là, ça ne sert pas à grand-chose.
Un chien de garde qui ne fait pas peur, ça ne sert pas à grand-chose.
C'est ça. Ouais. Ça s'appelle un petit caniche. T'sais, il jappe, il est fatigant, mais il n'y a personne qui en a peur. Et où ça devient intéressant, puis moi, c'est là-dessus précisément que j'ai travaillé, c'est que tu sais qu'il y a ce qu'on appelle des entreprises fédérales privées. Parmi les entreprises fédérales privées, il y a le domaine des télécommunications, par exemple, Québécois, là où on parle actuellement, c'est une entreprise fédérale privée. Ça fait drôle de dire ça, mais c'est ça pareil. Bombardier, c'est une entreprise fédérale privée. L'aéronautique, les banques, la Banque nationale et ainsi de suite aussi. Or, il y a évidemment des entreprises fédérales privées comme celle que je viens de mentionner qui vivent au Québec, ça va de soi. Il y en a qui sont auto-assujettis à la loi 101, du moins en bonne partie, mais il y a environ un 45% de ces entreprises-là qui ne l'étaient pas.
Okay.
Et donc, à partir de l'adoption du projet de loi dont on parle, du fédéral, on va forcer ces entreprises-là soit à s'assujettir à la loi 101, comme c'est le cas pour plusieurs actuellement, ou à s'assujettir à l'équivalent dans la loi sur les langues officielles. C'est-à-dire, par exemple, le droit de travailler en français, des sanctions, les communications, bon, puis tout le tralala. Et ça suit le projet de loi 96 dans l'optique où ça ne visera pas seulement les entreprises de 50 et plus, mais maintenant, ça va viser les entreprises de 25 employés et plus. Ce qui fait donc en sorte que ça, tu as ça au Québec, mais aussi, puis ça c'est intéressant, tu favorises le fait français à l'extérieur du Québec parce que les entreprises fédérales privées dans certains secteurs, par exemple en Ontario et au Nouveau-Brunswick, devront elles aussi s'assujettir à la loi sur les langues officielles et d'offrir des services en français.
Mm-hmm. Et sur le terrain, est-ce que ça va fonctionner tout ça?
Ben, il va falloir. Écoute, il y a une transition de 5 ans qui est prévue. C'est un peu long, mais en même temps, c'est l'espèce de compromis qu'on a fait essentiellement. Parce que, justement, on veut s'assurer que les gens aient le temps de, comment je te dirais, de s'ajuster, parce que c'est quand même un changement qui est important. Et si ça fonctionnait pas, ben là, il y aura justement une espèce de système de plainte qui pourra avoir lieu devant le commissaire en question. Et ça, je te dirais que là, ça sera pas des emplois, des plaintes braillées pour brailler. Là, c'est des plaintes avec une espèce d'effectivité, des sanctions qui peuvent être prévues, comme c'est le cas au Québec avec l'OQLF.
OK, pénal, là.
Comme exact, l'OQLF, c'est ça qui peut porter des accusations en Cour du Québec. Donc, en d'autres termes, c'est pas juste un espèce de bouillie de bonnes intentions.
Ben oui.
Il y a du mordant clair et net là-dedans.
Mais pour que le chihuahua devienne le Doberman, là, c'est ça.
Exactement.
Donc,
c'est ça, ces petits chihuahuas deviendront méchants.
Donc, c'est un peu comme on pense à la CNSST, à la commission avec le droit du travail, qui c'est vraiment un système de sanctions, d'infractions pénales qui peuvent être imposées à ceux qui ne respectent pas les règles. Parce que ce n'était pas
exactement
le cas avant, là. C'est ça.
Exact.
C'était pas
exact.
Déjà
en
comme
fait,
ça.
Les entreprises fédérales privées au Québec n'étaient pas assujetties de force à la loi 101. Donc, ceux qui voulaient pouvaient en faire un bout, mais jusqu'au point où ils souhaitaient. Les autres entreprises n'étaient pas obligées de. Et à l'extérieur du Québec, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, ben, il y a un élément coercitif, c'est obligatoire, puis il y a des répercussions pour les récalcitrants. Donc, moi, au final, évidemment, si tu me demandes si c'est une bonne idée pour le français, je ne vois pas vraiment comment on peut chialer là-dessus. Là, le Bloc québécois a essayé à la Chambre des communes en disant « Ah, ben, vous faites juste ça pour les élections. » Écoute, moi, j'ai présidé les consultations en 2019 en rapport à ça. Il y a eu ce truc-là qui est arrivé. Là, on a déposé ça à la fin avril. Je veux dire, moi, je l'ai vu, le travail qui a été accompli. C'est pas des niaiseries, puis c'est pas de la poudre aux yeux. Là, c'est 2 ans de travail intense, mm-hmm, avec des recommandations qui sont, je pense, solides, qui sont costaudes, qui existent, qui sont sévères. Franchement, moi, je dis bravo. Ouais. Faisons avancer le français, puis laissons la politique partisane de côté.
Ben c'est ça, parce que ça semble concret. Déjà, pour un juriste, d'entendre que tu as des bonnes pénalités, c'est sûr que malheureusement, le monde marche de même. On se cachera pas. S'il n'y avait pas de ticket sur la route, on roulerait tout à 150. Puis s'il n'y avait pas de ticket de parking, on parquerait n'importe où. Bon, c'est
moi le premier.
C'est ça. Mais à quelque part, faut pas être paranoïaque sur la langue, mais il faut pas être naïf, puis il faut se protéger parce qu'on sait qu'il y a une certaine vulnérabilité. Donc, c'est un peu ça. Pour finir, il nous reste une minute et demie. Donc, ces deux lois-là peuvent bien cohabiter avec la loi 101. Autant la loi, c'est langue officielle, ou 101, une ou l'autre est applicable là, pour les entreprises.
Bien, en fait, c'est ça. La loi sur les langues officielles, évidemment, s'applique à l'ensemble du pays, okay, ou du Canada, mais son volet québécois est volontairement arrimé avec le projet de loi 96, hein, qui, lui, va modifier la loi 101 comme on la connaît.
Okay.
Donc, il y a une espèce de job, je te dirais, de fusion, mm-hmm, qui est prévu. Puis, ce n'est pas un procédé de belles intentions, encore une fois, c'est prévu dans la loi.
Concrètement.
Ça va être, genre, c'est ça, c'est déjà écrit, puis ça va être fusionnel. Donc, mm-hmm, encore là, toi, si t'es un francophile du Québec, puis je pense qu'on l'est, toi puis moi,
oui,
ben on dit chapeau, merci, puis bravo, puis on va prendre une bière, puis on passe à d'autres choses.
C'est ça. C'est ça. On se dit pas ils font ça pour les élections. On s'en fout. On veut que le français soit protégé. Et on comprend bien la mécanique. Tu nous as bien expliqué ça. Et puis, j'en profite pour te souhaiter un bel été. Merci pour ta collaboration avec l'émission, d'avoir dit les vraies choses tout au long de la saison. On va sûrement se retrouver à l'automne. Puis, je te souhaite un bel été.
Ben, t'es très gentil. Merci. Ça a été un plaisir. Puis, merci d'accorder tes tribunes à des grandes gueules comme moi qui essaient peut-être de mettre de la lumière sur des trucs qui n'en ont pas nécessairement. J'appelle ça de l'injustice, mais bon, chacun
s'est respecté
là-dessus. Et puis, un gros merci, évidemment, à ton staff, ton équipe et les auditeurs, auditrices là, qui nous ont suivis. Et puis, si tu as besoin de moi à l'automne, je vais être là. Puis, dans l'intervalle, t'oublie pas que tu me dois une bière.
Yes, moi, hein, une ou plusieurs bières. Merci beaucoup, Frédéric. Bye-bye.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Ce qui se passe avec la grève à Exceldor, vous avez vu, on a euthanasié 1 million de poulets. Ça peut être 1 million par semaine parce qu'il y a une grève, il y a un conflit. C'est sûr que ça choque l'imaginaire, ça choque beaucoup de gens, surtout les amoureux des animaux. Oui, c'est des animaux qui sont destinés à l'abattage, donc pour la nourriture, mais quand on sait qu'il y a une utilité et que c'est pour nourrir des gens, on peut comprendre la démarche, mais lorsque on voit ça, c'est du, je dirais pas du gaspillage, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est abominable d'euthanasier autant d'animaux d'un coup, ça choque l'imaginaire. Et on se rend compte que ça nous amène à parler ben, des droits des animaux. C'est quoi la situation au Québec? Il y a différents animaux domestiques. Il y a ceux qu'on voit qui sont pour nourrir la population. Mais il y a d'autres pays qui semblent être plus avancés que nous. On sait qu'ici, ben, il y a déjà des infractions pour les animaux domestiques où est-ce que le code criminel prévoit que faire souffrir, on peut être accusé aux criminels. En Israël, on interdit la vente de fourrure animale pour la mode, déjà. En Europe, on se soucie de l'industrialisation et des élevages. Déjà, on met des règles dans ça. Le Québec et le Canada, où est-ce qu'on en est? Est-ce que pourquoi, lors d'une grève, on a le droit d'euthanasier, asphyxier, parce que c'est par asphyxie qu'on enlève la vie à tous ces poulets-là, là, d'un coup, là, 1 million. Pourquoi on a le droit de faire ça? Qu'en est-il de la situation juridique? Et on en parle avec Éric Yakov de Broise, qui est spécialiste en histoire de la criminalité et de la justice, qui va nous expliquer un peu l'évolution du droit de l'animal au Canada. Bonjour, Éric.
Bonjour, Maître Bernier. Ça va?
Ça va très bien. Donc, c'est un sujet qui c'est important d'en parler en voyant ce genre d'euthanasie là, massive d'animaux. On va y aller. Bon, c'est quoi au Canada, au Québec plutôt, la définition juridique d'un animal?
Alors, un animal, c'est un être vivant, aujourd'hui, qu'on qualifie de doué de sensibilité. On va le voir tout à l'heure, c'était pas forcément le cas avant, et qui n'est pas doté d'une personnalité juridique. Donc, il
Parce
ne peut pas...
Parce qu'avant, un animal, c'était un bien. C'était une table, une chaise, un toaster... Ça valait pas plus que ça, là.
Oui, ben ça a beaucoup évolué. Hein. L'histoire en elle-même, c'est une constante évolution. L'histoire du droit, c'est pareil. Les animaux, ça valait pas plus qu'une table, une voiture. C'était quelque chose. C'était un bien meuble, mm-hmm. assurable. Et c'est aussi, on peut faire un parallèle, hein, parce que dans le 15e, le 16e, jusqu'au 18e, 19e siècle, il y a un lien qui peut être fait entre les animaux et l'esclavage, hein, parce que l'esclave était considéré au même niveau qu'un animal. C'est-à-dire, ça faisait partie, c'était un bien meuble et on pouvait l'utiliser comme on le souhaitait. Alors, vous voyez, tout ça a évolué et c'est le cas. Hein. Depuis les 20 dernières années, il y a une prise de conscience à la fois écologique, environnementale et aussi considérant le bien-être des animaux. On ne veut plus, en tout cas dans les sociétés occidentales, on ne veut plus utiliser l'animal comme un bien meuble. On veut le prendre en considération dans son contexte et... On veut surtout que l'animal puisse jouir d'un certain nombre de droits. C'est pour ça qu'il y a eu une réforme, considérant que l'animal n'est plus un bien meuble, mais que c'est un être doué de sensibilité. Mmh. La différence paraît mince, mais c'est que dans le cas d'un être doué de sensibilité, eh bien, on va se soucier de son bien-être, même si l'animal peut être utilitaire. Dans le cas des poules, dont on a parlé pour Excel Dior, eh bien, on va se soucier que les poules aient un certain nombre de règles minimales pour que leur bien-être puisse être pris en considération.
Mmh. Parce que c'est ça, il y a une différence. Parce qu'au Québec, par exemple, il y a la loi sur la sécurité, le bien-être des animaux qui, justement, dit que l'animal est doué de sensibilité. Il y a des règles sur l'espace qu'on lui donne, la nourriture. Ça, c'est une loi et il y a même des sanctions pénal, oui. Là, j'ai une loi provinciale, même qu'il y a des peines d'emprisonnement, c'est plutôt mm-hmm. rare. Mais ça concerne beaucoup les animaux domestiques. Est-ce qu'il y a un équivalent pour les animaux qu'on dit, comme vous dites, utilitaires?
Oui, eh bien, en fait, depuis que la loi au Québec a été changée, même s'il y a toujours cette distinction entre les animaux utilitaires, donc ceux qu'on va utiliser pour la consommation, pour l'élevage, pour une utilité quelconque, et les animaux domestiques, la loi stipule que dans les deux cas, ce sont des êtres doués de sensibilité. Okay. Donc, ça touche autant les chats, les chiens, les lapins, le bœuf, le cheval, le porc, enfin, mm-hmm. tous ces animaux-là sont pris en considération. Et la loi instaure vraiment des peines, c'est-à-dire tout d'abord, elle est beaucoup plus rigoureuse qu'avant, elle interdit de causer de la détresse à un animal. Donc même si l'animal est voué à l'abattoir, on ne peut pas le frapper, le pousser, il y a des règles, voyez-vous. Okay. On a déjà vu des vidéos qui sont chocs, où on voit des animaux qui sont frappés dans les abattoirs, enfin, on sent le mépris des personnes qui font ça. Il est interdit aussi de l'abandonner. Et enfin, dans la loi aussi, et stipulé au Québec, c'est interdit de faire des combats d'animaux. On ne peut pas faire des combats de coqs, pas des combats de chiens. Ça se fait dans d'autres pays, mais chez nous, ça ne se fait pas. C'est cruel. Mm-hmm. C'est vraiment de la cruauté. Et comme vous l'avez dit, Maître Bernier, il y a des sanctions. Il y a des sanctions à la fois provinciales et fédérale. Les peines peuvent être, pour la première offense, peuvent aller jusqu'à 250 000 $. Et pour une récidive, on peut aller de 18 mois de prison jusqu'à des peines de prison de 18 ouais. mois et plusieurs centaines de milliers de dollars. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les médias dernièrement, mais c'est à Longueuil. Il y a eu une maman raton laveur et ses bébés qui avaient été battus et jetés aux ordures.
Ah ouais,
c'était pas à Longueuil, c'était à Laval. Eh bien, il y a eu une analyse et le SPCA plus la police vont enquêter et l'article 445.1 du code criminel pourrait être appliqué. Ça veut dire que la personne qui pourrait être retrouvée à avoir une peine pourrait avoir au minimum 10 000 $ de frais et 18 mois de prison, mais ça pourrait aller jusqu'à 5 ans de prison parce que dans le cas présent, on va jusqu'au criminel parce que les éléments sont tellement cruels envers l'animal qu'on peut aller jusqu'au criminel, donc au fédéral.
Mmh. Je comprends bien, puis c'est vrai que oui, on est équipé pour ça. Est-ce qu'on applique toujours la loi? Je ne suis pas sûr, honnêtement. J'ai l'impression, des fois, parce que c'est des animaux, on laisse aller. En tout cas, j'espère. Je pense qu'en 2021, on est de plus en plus conscientisé. Par contre, est-ce que si on se compare au Québec, est-ce qu'on est avancé dans ce domaine-là, au Québec, au Canada? Parce que là, on s'entend qu'il y a des règles. Bon, on ne peut pas maltraiter les animaux, même en abattoir, mais on a vu des images dans les médias. Là, c'est des milliers, des millions de poulets là, qui sont pris là, dans un espace assez restreint. Est-ce que, parce qu'on sait qu'en France, il y a peut-être des lois, est-ce que c'est plus évolué en France pour ce qui est de l'élevage industrialisé?
Alors déjà, si on se compare par rapport à l'ensemble du monde, oui, au Québec, on est plus avancé. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, par rapport aux pays d'Asie ou d'Afrique ou même d'Amérique du Sud, c'est sûr qu'on est plus avancé. On considère l'animal vraiment comme un être sensible. Maintenant, quand on se compare par rapport aux autres pays occidentaux, eh bien, on n'est pas en avance, mais on n'est pas en retard non plus. Okay. C'est-à-dire que, vous l'avez mentionné, en Israël, bon, ils sont beaucoup plus avancés, ils ont décidé d'interdire la fourrure animale pour la mode. D'accord. Mmh. Toute forme de mode, tout ce qui utilise la fourrure animale, c'est maintenant interdit. On peut utiliser du synthétique, du végétal. Il y a quelques exceptions, par exemple les Streimels, c'est-à-dire ces grands chapeaux qui sont utilisés par les juifs hassidiques. Là, c'est une exception qui est accordée pour un principe traditionnel et religieux. Mais même là, chez les religieux, on veut privilégier le synthétique ou le végétal.
Okay.
En Europe, on veut aussi de plus en plus faire de soucis concernant l'industrialisation des élevages. On veut interdire, par exemple, l'élevage dans les cages. On veut privilégier l'élevage en dehors. Pourquoi ? Non seulement parce que on se soucie du bien-être de l'animal, mais aussi parce que c'est un nouveau mode d'agriculture. En favorisant le bien-être de l'animal, on va favoriser l'agriculture écologique et biologique, et qui est bien meilleure pour la santé, et qui est bien meilleure aussi pour notre agriculture complète. Et donc l'Europe est beaucoup plus avancée parce qu'il y a une forte des subventions. L'Union européenne investit massivement dans cette agriculture écologique.
Il y a une volonté
et
là.
Environnementale. Exactement.
Et est-ce que
nous,
ça passe
de notre côté?
Est-ce que parce que l'Europe peut-être est un meilleur exemple. Est-ce que ça passe beaucoup par le consommateur, ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas? Parce que là, déjà, les gens mangent du poulet, mais on ne voit pas les images, mais avec les médias, là, on voit d'où viennent nos poulets. Mais est-ce que ça peut changer une certaine mentalité et que les gens vont rechercher plus du bio, de s'informer d'où viennent leur nourriture?
Alors, effectivement, c'est une très bonne question, Maître Bernier. L'Union européenne, si elle décide, elle réfléchit d'interdire l'élevage des animaux en cage, c'est avant toute chose depuis le dernier référendum européen qui permet des initiatives citoyennes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut lancer une campagne de signature à travers l'Union européenne et si cette campagne de signature récolte plus d'un million de signataires, eh bien, on est obligé de débattre d'une possible avancée de la loi au niveau du Parlement européen. Et en l'occurrence, pour mettre fin aux cages dans l'élevage, eh bien, en quelques mois, 1,4 million de signatures de citoyens européens ont été récupérées. Donc, le Parlement était obligé d'aller de l'avant.
Ça, c'est très intéressant. Déjà, une volonté de la population.
C'est une volonté populaire.
Ouais.
De notre côté,
mais
Canada...
Désolé, c'est tout le temps qu'on avait, Eric. Désolé, on en reparlera. Oui. Merci beaucoup. Merci pour tes interventions durant la saison. C'est la dernière fin de semaine, mais on se retrouve sûrement à l'automne. Merci beaucoup et bon été.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
On continue la discussion sur la grève à Axelle-Dor, les poulets, l'euthanasie de millions de poulets par semaine. On a parlé plus tôt de tout ce qui était, bon, un peu les animaux, le statut des animaux. Maintenant, on va parler avec cette grève-là. Bon, il y a du droit du travail, il y a une façon de faire commerciale dans tout ça. On en parle avec Maître Jean-Paul Boily.
Ouais, ben pour une dernière cette année, là, on va. Écoutez, il y a au niveau du droit du travail, là, c'est pas compliqué. Là, on a vu cette semaine François Legault qui a demandé aux partis, aller en arbitrage parce que ça n'a pas d'allure. Vous savez que c'est 1 million de poulets par semaine. Là, on a vu la gang d'environnement. Voyons, d'environnement, là, en tout cas, qui criait après les 30 chevreuils à Longueuil. Là.
Ouais, les chevreuils
là, on parle
de
d'un million de poulets, bon, ils n'ont pas entendu. En tout cas, on ne sait pas pourquoi, là, ça reste des animaux aussi. Mais là, il n'y a pas juste ça. Là. Vous avez des experts, celui de l'Université Dalhousie, M. Charlevoix, et qui dit, écoutez, là, c'est des millions aussi de retombées économiques parce que les poulets qu'on ne mange pas, ben, ils ne vendent pas. Les Saint-Hubert, les Bénis de ce monde, ils vendent moins de poulets, puis à un moment donné, le prix du poulet va augmenter aussi. Là où il y a un problème, l'offre puis la demande, vous savez, en matière de négociation collective, les rapports de force se font généralement avec, bon, l'employeur qui a un droit de lock-out, les salariés qui ont un droit de grève. Et on l'a déjà vu à l'émission Maître Bernier. Le droit de grève, c'est un droit qui a été reconnu par la Cour suprême. La seule façon de pas faire, d'enlever ce droit de grève-là, c'est pour les services essentiels. On l'a vu, l'arrêt Saskatchewan, souvenez-vous, l'arrêt de 2015, qui a dit que si c'est pas un service essentiel, vous devez vous entendre ou sinon les droits sont là.
En
le droit
cas,
de grève, c'est un droit absolu.
Certaines personnes pourraient dire que d'asphyxier des millions de poulets. Je veux dire, c'est du gaspé. C'est des animaux. On sait qu'ils sont destinés à être abattus pour la nourriture.
Exact.
Mais au moins, des animaux qui sont abattus, qu'on va manger, il y a une utilité. Je veux dire, il y a quelque chose à ressortir de dire que c'est fait pour une cause qui est quand même de nourrir les gens. Mais là, quand on tue des animaux pour rien, c'est pas proche d'être essentiel?
Ben, c'est-à-dire que non, oui et non, parce qu'on sait très bien que ce qui va arriver... Bon, le syndicat, d'abord, il y a un écart de beaucoup, là. On parle de 40% d'augmentation de salaire
sur 3 ans. Le problème? C'est ça.
Ben, il est là le problème. Le syndicat demande... Écoutez, c'est des jobs de... Excusez-moi, il y a un mot en M, là, que je dirais pas, là. C'est des jobs qui sont pas faciles, là.
Ouais.
Dans ces entreprises-là, là, c'est pas toujours drôle de travailler là-dedans. Alors, les employés, je pense, à bon droit, demandent des augmentations substantielles. L'employeur, là-dedans, il y a un double problème. C'est que les producteurs de poulet sont également... Axelle-Dor, là, c'est une coopérative de regroupement de producteurs. Alors, ils sont un peu en conflit d'intérêts là-dedans. Puis là, le problème, c'est que si il y a une loi spéciale... L'arrêt Saskatchewan aussi, c'était du blé, là. C'était de la nourriture, là. C'était important.
On rappelle à nos auditeurs, c'est la loi pour l'imposition de loi spéciale.
Exact.
Forcer le retour au travail.
Oui.
Mais dans ce dossier-là, si on dit que ce n'est pas un service essentiel, comment on pourrait mettre une loi spéciale?
Là, ce que le syndicat veut faire, je pense, puis ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, ils vont essayer d'étirer l'élastique au maximum avant d'accepter l'arbitrage. Parce que l'écart semble assez grand. pas pour rien que l'employeur dit, nous autres, on est prêts à aller en arbitrage. Il n'y a pas un arbitre qui va donner 40% d'augmentation sur 3 ans. Je suis à peu près certain de ça. Mais d'un autre côté, si tu enlèves le droit de grève à ces gens-là par une loi spéciale, cette loi-là, elle va être contestée. Ah! Comme question de fait, vous savez, les tribunaux, ça va pas toujours vite. Hein? Surtout lorsqu'on va en appel. Surtout si on va en appel en cours d'appel et encore plus si on va en Cour suprême. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, dans 4-5 ans, la Cour suprême va dire non, non, on rejette l'appel, la décision de la Cour d'appel qui va avoir dit que l'arrêt Saskatoon, parce que le star est décisif, vous savez ce que c'est, on en a déjà parlé, les décisions des tribunaux vont s'appliquer puis vont dire...
Allez,
le
droit pas trop technique. Là.
Non, le droit de grève est un droit fondamental.
Ça finit comment, ça là, dans les prochains jours? On peut pas, par semaine... Non. Tuer des millions de poulets sans rien faire.
Ça va finir que si le syndicat n'accepte pas rapidement l'arbitrage, il va y avoir une loi spéciale malgré l'arrêt Saskatchewan. Puis là, les partis n'auront pas le choix parce que la loi spéciale va prévoir des amendes importantes. Souvenez-vous au port de Montréal ce qui est arrivé. Alors, on fait des menaces et puis là, ben, syndicat, il n'est pas fou à temps plein non plus. Alors, le syndicat va dire, écoutez, wow, un instant, avant d'adopter la loi spéciale, on va accepter l'arbitrage.
Parce que là, ils peuvent mettre en péril l'entreprise.
Ben, c'est-à-dire oui puis non, parce que celles d'or ont d'autres, ils ont d'autres endroits où, qui sont pas aussi gros qu'à Saint-Anselme. Saint-Anselme, c'est le plus gros. Mais il reste qu'ils pourraient traiter le poulet ailleurs. Il y aurait pu aussi, le représentant syndical disait cette semaine, à propos, il savait que ça s'en venait, il aurait pu modérer la production de poulet en sachant qu'il y aurait possibilité d'arrêt de travail. Ils ne l'ont pas fait. Bon, là, c'est l'employeur a le beau jeu pour l'instant, mais le syndicat, là-dessus, ne lâche pas. Je suis pas le plus pro-syndical sur la planète, mais je suis obligé de vous dire que dans ce cas-là, ils ont probablement raison de faire ce qu'ils font. La façon de faire, c'est peut-être pas la bonne, mais il reste que le résultat qu'ils veulent avoir, qu'ils veulent obtenir. Moi, je vous prédis une chose. On fait toujours des petites prédictions à l'émission, on aime ça. Ouais. Mais il reste que je pense que si le syndicat continue à mener sa barque comme ça et accepte éventuellement, d'ici quelques jours, il ne faudrait pas que ça prenne 2 semaines, l'arbitrage, ils vont être gagnants. D'un autre côté, s'ils ne le font pas, il va y avoir une loi spéciale malgré l'arrêt Saskatchewan. Cette loi-là va être contestée en cours, mais ils n'auront pas le choix de revenir au travail. Puis là, ben, dans 3-4 ans, c'est certain qu'il va peut-être avoir des ententes entre les deux, où on va dire des rétroactifs, etc. Mais ça va régler le problème des petits poulets pendant ce temps-là. Parce que c'est sûr que pendant ce temps-là, les petits poulets, ils ne cuisent pas dans les fours, mais ils se font ramasser à l'euthanasie.
Ils ne sont pas utiles à personne. Socialement parlant, ça a c'est dégueulasse. Pas d'allure de tuer des animaux inutilement. Exact. Au moins, quand on les mange, on dit qu'il y a une raison. Je sais pas, ils ont-tu fait par exprès pour faire la grève durant la série du Canadien? Parce que les ailes de poulet...
Je pense pas que ça soit...
D'habitude, ils s'en mangent devant le hockey.
C'est une bonne façon de faire valoir ses droits en disant « Vous mangerez pas d'ailes de poulet.
Ouais, »
Les ailes à la cage, on en aurait pu, ça va être 3 fois le prix au lieu de payer 3 fois moins cher.
Mais... On espère que ça s'éternisera pas.
Non.
Mais ça s'est-tu déjà vu avec des animaux comme ça, des abattages pour la grève?
Ben, c'est-à-dire que faut comprendre, là. D'abord, des lois spéciales, la CAQ en a fait déjà. Ils en ont fait, par exemple, souvenez-vous les concessionnaires automobiles qui...
Bon, on a la musique, c'est bon.
Bon, on a quelque chose d'intéressant ici. Excusez-moi.
C'est votre ordi, là,
alors,
il est tannant.
C'est mon ordi qui... C'est le direct, c'est ça que ça fait. Bon, alors, écoutez... non, mais on a vu les concessionnaires automobiles. Ils ont été en grève pendant 3 ans. Là, ça fait à peu près 1 mois. Est-ce qu'on peut le faire pour les mêmes raisons qu'on a données, parce qu'on avait dit dans ce temps-là, ça n'a pas de bon sens. Il y a eu d'autres exemples aussi où les lois spéciales ont été adoptées, malgré que ce n'était pas nécessairement un service essentiel. Ça peut se faire. Au niveau de la... Évidemment, le fait que le gouvernement va avoir le gros bout du bâton, puis surtout l'opinion populaire en sa faveur, c'est que c'est de la nourriture. On jette pas de la nourriture. Et puis déjà, il y a déjà des gens qui ont de la difficulté. Alors, puis avec la COVID et tout ça. Alors, je pense que là-dessus, la loi spéciale pourrait s'appliquer.
Il y a des pays qui crèvent de faim. Je sais que c'est le jargon habituel, là, mais c'est quand même ça. Des pays qui crèvent de faim, on tue des millions de poulets pour rien.
Exact.
Ça, comme pas d'allure. Mais rapidement, est-ce qu'on peut faire appel à à ce qu'on appelle des scalpers
pour
briser la grève?
Ouais, ça serait plus difficile. Normalement, c'est les cadres qui peuvent remplacer, mais dans ces entreprises-là, c'est pas une entreprise fédérale. Les entreprises fédérales, la loi fédérale prévoit des employés de remplacement. Ici, on parle du code québécois du travail. Ça serait très difficile de remplacer ces employés-là, à part utiliser des cadres. Mais les cadres allaient couper des coups de poule. Je suis pas sûr que ça va les intéresser. Alors, je pense pas que ça puisse se faire. Écoutez, c'est toujours possible, mais je croirais pas que ça puisse se faire dans ce cas-là. Mais si on maintient une loi spéciale, les employés n'auront pas le choix, ils vont rentrer au travail.
Mm-hmm. Bon.
Et là, on est à dernière chronique.
Oui, pour nos auditeurs, là, l'émission, c'est la saison finie aujourd'hui. Donc, dernière chronique de la saison 2021.
Oui, déjà trois ans.
Ça fait déjà trois ans, avocat à la barre.
Exact.
Puis même là, c'était une période très... On a tellement parlé de la COVID, évidemment.
On en a parlé beaucoup.
Sujet, on a exploré des lois qu'on ne pensait jamais explorer, comme la loi sur la santé publique qu'on connaît par cœur maintenant.
On en avait beaucoup de sujets depuis trois ans. Puis, vous savez, je suis un féru de statistiques. Puis, j'ai dénombré depuis trois ans, depuis avocat à la barre, puis avec l'ancêtre, là, j'appelle mon avocat. Le nombre de sujets qu'on a fait à l'émission, que vous avez fait à l'émission, parce que j'ai pas participé à tous les sujets, j'en ai fait plusieurs, mais ils en ont fait pas mal plus que moi. Et puis, je vous ferai peut-être faire un petit, comment on dit, un petit guess. Là. Combien de sujets pensez-vous qu'on a fait à venir en date d'aujourd'hui à l'émission là depuis les trois dernières années?
Trois ans de sujets.
Ouais.
Ben, ce que je sais, c'est que l'actualité judiciaire et juridique est inépuisable.
Il y a
tout le temps un petit angle à prendre pour, tu sais, c'est comme la politique, là, il y en a toujours. Mais le nombre, au moins quatre sujets par émission
ça
pendant trois ans, j'ai pas dit.
Plus les questions du public. Alors, j'ai fait le dénombre parce qu'on l'avait fait l'an passé. Souvenez-vous, à la dernière
émission,
en juin l'an passé, à la même période, on avait fait un dénombre. Et puis là, je peux vous dire qu'en date d'aujourd'hui, on a fait au-dessus de 808 chroniques et près de 500 questions du public, c'est pas rien. Alors, on a passé 1308 sujets depuis trois ans. Et puis, dire qu'au départ, il y a des gens du groupe OKI qui disaient, « Ouais, mais une émission d'affaires juridiques, judiciaires, vous avez passé deux semaines, vous n'aurez plus rien à dire. » Puis, ce que je sache, c'est que des sujets, on en a en masse, puis on en a fait pas mal. Fait que, écoutez, bravo.
Ouais. Bravo, merci Matt Boily, toujours présent avec les chroniques.
Peut-être là
les questions
prochain.
Du public. On verra la saison prochaine qu'est-ce qui se passe. Et j'en profite pour remercier nos auditeurs qui sont présents chaque semaine, chaque fin de semaine, qui sont curieux, veulent savoir ce qui se passe dans l'actualité judiciaire et peuvent s'éduquer en même temps parce que le domaine judiciaire, juridique est boudé. Des fois, il y a quelques années, c'était guindé, les gens ne s'intéressaient pas trop, mais on est entouré de tout ça. C'est là qu'on s'en rend compte parce que les sujets sont infinis. Puis merci à tous les chroniqueurs de l'émission. J'ai remercié un par un.
Les gens à la recherche, à la mise en onde.
Recherche, mise en onde, à Cube. Merci à tout le monde. Puis j'espère qu'on se retrouve la saison prochaine.
Dieu le veut.
Ouais, si Dieu le veut. Et bon été. Profitez-en. Et on espère que les mesures sanitaires vont ça va revenir à la normale pour en profiter tout l'été. Bye-bye.
Cube Radio.